BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. N'oubliez pas évidemment tous nos comptes sur les réseaux sociaux, librairie de l'écho, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur X, sur Instagram, pour retrouver toutes les références des auteurs dont nous parlons dans l'émission et de leurs livres, bien entendu. Après cette première partie, vous retrouverez bien évidemment nos critiques attitrées pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Mais tout de suite, on démarre avec nos invités. Et on prend soin de soi et des autres aujourd'hui dans la librairie de l'écho en essayant de changer de regard sur l'économie pour valoriser davantage ce qui rapproche entre eux les humains, ce qui les rend heureux, pour réfléchir aussi à un cadre de vie et à un urbanisme qui apporte davantage de bien-être et de bonheur aux citadins. À toutes ces thématiques, à toutes ces questions, nos invités apportent beaucoup de réponses. Emma Holten, d'abord, elle est essayiste, elle est danoise, elle publie un livre qui fait un carton en Scandinavie. Ça s'appelle « Nous le valons bien » aux éditions Robert Laffont. Nous l'avons rencontré lors de son très bref passage à Paris il y a quelques jours. Et puis, nous avons le plaisir aussi de recevoir Carlos Moreno. Carlos, bonjour.
Bonjour cher Emmanuel, plaisir d'être de nouveau à cette belle émission.
Eh ben, on est ravis de vous recevoir, Carlos. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IAE Paris-Sorbonne. Vous êtes urbaniste, architecte, vous conseillez de nombreuses villes dans le monde. On vous avait invité dans la librairie de l'écho pour parler de la ville du quart d'heure. Et si nous sommes en duplex aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques jours, vous conseillez désormais le maire de Budapest. Et le beau décor qui est derrière vous, cher Carlos, eh bien, c'est celui du maire de Budapest qui vous a prêté son bureau et on l'en remercie pour cette interview. Votre livre s'appelle La ville du soin, territoire, le bien-être à portée de main. C'est aux éditions de l'Observatoire. Carlos, on commence avec vous. Ma question va être très directe finalement. De quoi souffrent nos villes aujourd'hui ?
Emmanuel, merci pour cette invitation et effectivement pour aller droit au but. Nos villes, c'est globalement partout dans le monde, souffrent d'une perte de temps utile, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de vivre. On perd l'humanité dans nos villes. On perd nos relations familiales, sociales. On a perdu cette notion qui était une grande richesse, qui était la proximité, c'est-à-dire les liens sociaux, les liens avec la nature, les liens avec les autres. Et on a perdu la notion d'équité, c'est-à-dire que la ville, elle n'est pas la même en fonction de nos revenus, en fonction de la position sociale qu'on occupe. Notre projet, donc, aujourd'hui, c'est de réparer la ville en offrant la capacité à récupérer cette humanité qui s'est perdue dans nos villes.
Alors, vous dites il faut réparer donc la ville, et réparer la ville, c'est réparer le lien et c'est réparer l'humain. J'aimerais quand même, Carlos, que vous nous racontiez cette histoire fantastique que vous racontez au début de votre livre, cette question du début de la civilisation, cette histoire de l'os fracturé et guéri, c'est ça qui marque le début de notre civilisation. Racontez-nous l'anecdote, je la trouve géniale.
Oui, je pose cette anecdote qui est attribuée à la très grande anthropologue de Yorkaise, Margaret Mead, à qui une étudiante lui reposait une question: quel est le premier signe de la civilisation humaine? Et là où tout le monde s'attendait à parler des temples, des pyramides, des grands travaux pour créer des éléments absolument magnifiques matériels, elle a répondu: les premiers signes de la civilisation, c'est l'os d'un néandertal qui a été retrouvé, guéri. Et il a dit, donc, le nerf dental, s'il avait une fracture, il allait être donc mangé par les animaux sauvages et par les fauves. Et si cet os a été trouvé guéri, c'est-à-dire avec des signes d'avoir été soudé, c'est parce que d'autres se sont occupés de lui, l'ont amené quelque part, ils l'ont soigné jusqu'à qu'il se rétablisse complètement. Et Margaret Mead aurait dit, c'est ça les premiers signes de la civilisation, c'est s'occuper des autres, de les protéger, c'est l'entraide, c'est la collaboration, c'est les mettre à l'abri face aux difficultés. Et je trouvais ça absolument magnifique et j'ai voulu commencer mon livre par cette anecdote, effectivement, Emmanuel, parce que aujourd'hui, c'est la réalité dans nos villes.
Et c'est bien pour ça que je voulais qu'on la partage. Carlos Moreno, c'est quoi le bien-être dans nos sociétés urbaines, contemporaines, prises entre l'hypermobilité, l'hyperconnectivité, l'angoisse écologique?
Le bien-être, j'ai voulu insister sur ce point, c'est notre capacité à gérer un temps qui nous permet de vivre avec soi-même, avec nos êtres proches, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. La première bataille au XXIe siècle pour le bien-être, c'est avoir du temps disponible. Le bien-être, c'est avec du temps, tisser des relations de qualité, sortir de nos écrans au XXIe siècle, qui sont devenus aujourd'hui des éléments qui nous déconnectent de la réalité sociale, et qui nous enferment d'ailleurs dans un monde parallèle de beaucoup de violence, de beaucoup de haine. Le bien-être, c'est aujourd'hui accéder à la qualité de vie, qui ne se mesure pas par les performances de ce qu'on produit, mais se mesure par des choses comme l'accès à l'éducation, à la culture, aux soins, à l'espace public, l'accès à ce qui peut enrichir notre qualité d'humain qui habitons et qui doit être adapté pour chacun de nous. Les bien-être pour les enfants, les bien-être pour les personnes âgées, pour les femmes, les bien-être pour tous ceux qui habitons dans un endroit. Et je dirais, les plaisirs et les bonheurs et la fierté d'habiter quelque part dans lequel on est plus anonyme, on n'est pas dans un lieu minéral, mais dans lequel on est en connexion avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Les bien-être, c'est vivre dans des villes habitables.
Alors justement, Carlos Moreno, il y a une double tendance qui fait finalement de la ville le lieu de tous ces défis pour que nos sociétés fonctionnent mieux. La première tendance, c'est que d'abord, les villes deviennent le lieu où vit une majorité de l'humanité. Et la deuxième tendance, c'est finalement les États-nations dont l'essoufflement est patent, c'est-à-dire que les États aujourd'hui sont de moins en moins puissants et de plus en plus de gens vivent en ville. Et donc, finalement, la ville, ça devient le lieu essentiel, le laboratoire essentiel de tous ces progrès que doivent faire nos sociétés.
Absolument. Je l'ai redit encore dans mon livre, et malheureusement, l'histoire nous donne raison. On a des États qui deviennent de plus en plus durs, des États où les gouvernances autoritaires, où les gouvernances déconnectées de la réalité amènent à prendre des décisions parfois totalement à l'encontre de ce qui est vivre en humanité et la qualité des vies. Et donc, les villes, c'est les lieux où habitent non seulement la majorité de la population, mais où on est en capacité de retisser des liens forts entre les gens et de récupérer donc une qualité de vie qui va nous relier les uns aux autres. Et c'est pour ça l'importance de la gouvernance locale, l'importance des maires, des présidents des métropoles. Et donc, dans les villes, on a trois défis. Un défi écologique, réduire notre empreinte de CO2 et préserver la biodiversité. Un défi social, retisser les liens sociaux, retrouver des quartiers où il faut vont vivre, retrouver des espaces publics de qualité. Et un troisième enjeu, qui est l'enjeu économique, Emmanuel. Nous devons relocaliser l'emploi en proximité, relocaliser des circuits courts, réutiliser des matériaux locaux, réutiliser la connaissance locale. Je dis souvent qu'à l'époque de l'intelligence artificielle, de l'IA, nous devons remettre en valeur deux autres IA dans les villes, qui est l'intelligence adaptative, c'est-à-dire localement être capable de réinventer nos lieux pour qu'ils soient beaucoup plus aimables et beaucoup plus en lien avec la protection de l'environnement et de la nature. Et l'autre IA, qui est l'intelligence ancestrale, des solutions locales qui nous permettent de retrouver cette notion de circuit court, de réutilisation. Et au cœur, notre manière de vivre qui passe par les logements. Un logement qui soit accessible à tous, toutes, chacune, chacun. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui des villes, c'est que le logement est en crise et que donc on est de plus en plus déconnecté des services parce qu'on est obligé d'habiter très loin, des manières qui nous déconnectent de services de proximité. Et tant qu'on n'a pas un logement accessible pour les personnes les moins favorisées, je parle de logement social, à ce moment-là, la gouvernance échoue parce que les tensions sont très fortes. Mais le logement social est au cœur de la proximité, Manuel.
Carlos Moreno, moi, il y a une question qui me taraude. C'est comment est-ce qu'on peut envisager, à un horizon relativement proche, ce bouleversement, finalement, de l'organisation de nos villes, quand on connaît l'inertie de l'urbanisme, de l'architecture. Je veux dire, on est bien obligé de faire avec la ville qu'on a aujourd'hui.
Absolument. Il faut savoir, et je l'ai dit à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qu'en fait, la partie nouvelle d'une ville, c'est moins de 2% par an. Donc, transformer la ville, c'est s'occuper de la ville qui existe déjà. Et je ne me laisserai jamais de le dire, Manuel. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper en priorité de la ville que nous avons tous les jours devant nous et la transformer. Et pour cela, Emmanuel, il ne faut pas avoir peur, il faut se mouiller, il faut prendre des mesures qui vont permettre donc d'échanger la ville d'aujourd'hui.
Alors,
la ville, elle est minérale. Alors, Emmanuel, la ville, elle est aujourd'hui essentiellement minérale, parce que plus de la moitié des infrastructures des villes de la voirie ont été données aux voitures qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Donc, effectivement, il faut réduire la place de la voiture dans les villes. Il ne faut pas avoir peur de le dire face aux enjeux climatiques. Donc, il faut végétaliser. Il faut ouvrir les rues aux piétons. Il faut développer les mobilités à pied, les mobilités en vélo. Mais ça ne suffit pas. Emmanuel, il faut développer l'économie locale, avoir des commerces locaux, réinstaller des coworking pour que les gens viennent travailler en ville et non pas dans des zones d'activité qui sont loin de tout service. Il faut réinjecter des circuits courts dans la ville. Et ça, c'est possible parce que on a la capacité aujourd'hui, y compris dans ce 21e siècle d'une économie des services, de réinstaller des services. Mais il faut également offrir de la culture, de l'éducation, de l'espace public. Et je l'ai dit une fois de plus, Emmanuel, pour que tout cela soit possible, il faut que les logements soient accessibles à toutes et à tous dans toute la ville, pas dans des ghettos, pas dans des quartiers spécifiques. Il faut rompre la gentrification et pour cela, tout ce qui concerne le logement social doit être une politique qui doit s'appliquer partout, y compris dans les plus beaux quartiers, pour que ces logements nous permettent d'accéder à courte distance à plus d'activités. Et ça, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui sont engagées dans cette voie-là, et on voit que les transformations sont possibles, mais il faut être patient et il faut prendre du temps.
Carlos Moreno, est-ce qu'il y a des villes comme ça qui peuvent servir de modèles, des exemples que vous avez concrets comme ça, de villes qui se sont transformées dans ce sens d'un mieux vivre, finalement?
On en a énormément d'exemples dans les 5 continents. Je l'ai expliqué dans mon précédent livre, mais je l'explique également avec des exemples très concrets et dans ces livres que je viens de publier. Et on va parler de l'endroit où je suis, Budapest. Donc, ça a été dit il y a un instant. Je suis à Budapest pour travailler avec les maires Gyergyeli et Karácsony. Qui pouvait imaginer qu'une ville comme Budapest, qui a été jusqu'à il y a 15 jours la capitale d'un des pays les plus anti-européens, pouvait développer et des idées pour transformer cette ville et la rendre la plus vivable. Et donc, tout ce qui concerne une politique des logements, une politique des commerces locaux, les rues des écoles pour les enfants, sont des choses qui sont possibles. Dans les pays de l'Est, juste à côté de l'endroit où je suis, Varsovie, qui développe aujourd'hui, la récupération de sa rivière pour faire des lieux habitables. De toutes les petites villes en Pologne, des 15 000 habitants, des 12 000 habitants, qui utilisent ces concepts qui s'appellent le territoire de la demi-heure. Emmanuel, la semaine dernière, j'étais en Espagne. Le premier ministre Pedro Sanchez a lancé un programme qui s'appelle l'Espagne des 30 minutes. On est en train de parler d'une politique de tout un pays pour que les petites villes, les villes moyennes et la ruralité aient des services accessibles à côté. En Corée du Sud.
Ouais. Allez-y, on termine avec la Corée du Sud, Carlos.
Voilà, la deuxième ville de la Corée du Sud qui s'appelle Busan subit une transformation complète, y compris dans l'économie, offrant des services de proximité. Et la liste est très longue, on pourrait passer l'après-midi à dénombrer l'ensemble de villes et
vous citiez aussi des villes,
je me rappelle, et de pays.
Et vous citiez des villes aussi comme Kigali au Rwanda ou comme Medellin
en Colombie.
Merci beaucoup, Carlos Moreno. Donc, voyez, votre concept de ville du quart d'heure et de territoire de la demi-heure deviennent des principes universels. Félicitations.
Absolument.
Merci beaucoup, Carlos Moreno,
merci
de
Emmanuel.
Nous avoir...
C'est un plaisir.
On était ravis de vous accueillir pour ce livre, donc La ville du soin. Et on va prolonger justement avec cette problématique autour de l'économie du soin. Cette fois-ci, écoutez ce que nous disait Emma Holton il y a quelques jours au sujet de son livre « Nous le valons bien ». C'est aux éditions Robert Laffont. Emma Holton, vous démarrez votre livre sur une interrogation fondamentale, existentielle. Comment avons-nous pu, dans nos sociétés occidentales, créer autant de richesses et aussi peu de bonheur ?
J'ai été très intéressée par la façon dont nous définissons ce que signifie la richesse. Qui peut définir cela? Quelle langue utilisons-nous pour la définir? Que ce soit les politiques ou les journalistes, nous utilisons le langage de l'économie pour parler de ce que c'est que la richesse. L'économie est une science fantastique, elle peut faire beaucoup de choses. Mais je trouve aussi que quand il s'agit de prendre soin des gens, de nos esprits, de nos corps, de nos relations sociales, la langue de l'économie est parfois assez pauvre. Cela signifie que nous tendons parfois à oublier ou à sous-estimer le bien-être des gens lorsque nous structurons nos organisations économiques et politiques.
Mais pourquoi avons-nous choisi finalement ces représentations mécaniques de nos sociétés ?
Je pense que l'économie a un but très beau qui est d'avoir une approche apolitique et scientifique pour organiser la société. Et parfois cela signifie qu'elle simplifie les relations entre les groupes sociaux avec des modèles, des algorithmes, des équations et une vision mécanique de l'organisation sociale. Or, je pense que le soin n'est pas mécanique du tout. Les attentes de chaque personne sont différentes, difficiles à prévoir. Les corps et les esprits ne réagissent jamais de la même façon. On ne sait pas quand nos enfants seront malades. La langue économique a beaucoup de difficultés à prendre en compte tout ça, même si elle est plus puissante que la sociologie ou l'anthropologie pour rendre compte des interactions entre tous les corps sociaux.
Is not good at understanding it. Au cœur de votre livre, il y a ce paradoxe incroyable qui est que ce que vous appelez le care, et vous allez nous dire ce que c'est, c'est ce qui permet à tous les autres travaux d'exister et pourtant on ne le mesure pas.
Depuis Smith, Hobbes, Locke, les économistes se sont concentrés sur l'industrie, sur les mécanismes de marché, les innovations technologiques, la productivité. Mais ils n'ont pas mesuré à quel point notre prospérité n'est possible que grâce à un capital capital humain valorisé, protégé, entretenu par les mères, les femmes, les personnels de santé, les assistantes de la vie quotidienne à la maison ou dans les lieux de soins et de bien-être. On ne peut plus considérer aujourd'hui que tous ces soins prodigués aux forces vives d'un pays sont un acquis, voire un dû. Nous devons prendre conscience que les ressources ne sont pas infinies et qu'il faut les économiser et en prendre soin. Le capital humain n'est pas infini, la nature non plus ne prodigue pas ses ressources à l'infini. Le recul de la démographie laisse penser que l'homme va devenir une ressource plus rare qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout comme beaucoup de matières premières et d'espèces animales et végétales, il va falloir beaucoup plus de soins pour préserver toutes ces ressources. Or, aujourd'hui, ces métiers du soin sont dévalorisés. Si les gens ne veulent pas devenir soignants, ne veulent pas travailler dans les hôpitaux, ne veulent pas s'occuper des personnes âgées, c'est toute la société qui va dysfonctionner. Personne ne peut bien travailler s'il n'évolue pas dans un environnement bienveillant et respectueux de son bien-être. C'est vrai pour tous les métiers, dans les services comme dans l'industrie.
Alors, en opposition à cette économie traditionnelle, vous appelez cette économie du care l'économie féministe. Je voudrais que vous précisiez très exactement ce que vous entendez par là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça n'est pas l'économie du féminisme.
Pendant très longtemps, les mouvements féministes et les économistes, notamment les économistes néoclassiques, s'entendaient très bien parce qu'ils avaient le même objectif, permettre aux femmes de travailler davantage pour apporter plus de main-d'œuvre pour les uns, pour leur permettre d'être plus indépendantes pour les autres.
Turns it upside down and say, okay, but who should do what women have traditionally done? If women are living lives much more like men,
l'économie du féminisme renverse la proposition. Si les femmes travaillent autant que les hommes et font les mêmes métiers, alors qui va assurer les tâches qui incombaient auparavant aux femmes et notamment au sein de la famille? Autant d'activités dont la valeur sociétale a toujours été mal rémunérée et évaluée. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de se demander combien on va payer une nounou ou une femme de ménage. Il s'agit de prendre conscience qu'à la base de chaque réussite professionnelle, chaque entreprise, chaque service public, chaque école, chaque magasin, il y a toujours du soin. Et parce que les femmes ont traditionnellement été surreprésentées dans ce travail, on a appelé cette économie du soin l'économie féministe.
But it is relevant to everybody, no matter the gender. And I think in my book, it is not clear whether
et au final, je ne sais pas pour qui il faut être le plus désolé, les femmes ou les hommes. Il me semble que le plus intéressant, c'est une société dans laquelle la vie des femmes va ressembler un peu plus à celle des hommes et la vie des hommes un peu plus à celle des femmes.
But I'm more interested in an economy where men's lives start looking a little bit more like women's.
Alors, vous soulevez un paradoxe dans votre livre. Vous citez deux études. Une dit que lorsque les femmes rentrent du travail chez elles, leur stress augmente, alors que le stress des hommes diminue quand ils rentrent chez eux. Mais vous citez une autre étude qui dit que quand on demande aux hommes sur leur lit de mort qu'est-ce qu'ils regrettent le plus dans leur vie, souvent ils disent qu'ils regrettent d'avoir trop travaillé.
Je pense que vous arrivez à l'essence du livre, car il y a toujours eu un paradoxe dans le féminisme. Quel rapport les femmes doivent avoir avec leur foyer, leur maison? Il y a l'aspiration à en sortir, à contribuer à la prospérité économique et sociale, à la vie politique, à être indépendante financièrement. Et puis il y a aussi l'aspiration à en faire un lieu de vie, de protection, de bien-être, d'amour, mais aussi de liberté, au premier chef pour ses enfants. La meilleure façon de résoudre ce dilemme, ce n'est pas d'obliger les femmes à faire un choix, la maison ou le travail, c'est de valoriser, de reconnaître le travail de structuration de la société qui est fait à la maison.
For example, here in France, a man gets 1 week off typically when the child is born, and a woman gets 3 months. That is very, very little, in my opinion.
Par exemple, partout dans le monde, un homme n'a que quelques jours de congé quand il a un enfant, une femme, plusieurs semaines.
Robs you of time with that child.
Ça montre bien que la contribution à la vie du foyer et de consacrer du temps à son enfant est une activité qui est considérée comme retirant de la valeur à la société, alors qu'il faudrait considérer qu'elle en ajoute.
Vous citez un autre chiffre. 242 milliards d'euros, c'est en gros la perte de revenus des femmes liée au temps supplémentaire qu'elles passent par rapport aux hommes dans les travaux domestiques, et somme qui n'est évidemment jamais payée.
Yeah, I think it is very, very clear that we are in a situation where women become poor.
Oui, c'est très clair. La société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle avoir des enfants appauvrit les femmes. Lorsqu'une femme a un enfant, c'est la période au cours de laquelle elle gagne le moins bien sa vie de toute sa carrière. Nous vivons une crise de la fertilité et de la natalité. Beaucoup de pays ont pris des mesures pour essayer d'inciter à faire des enfants. En France, l'État a envoyé une lettre aux personnes nés en 1997 pour les inciter à procréer, mais aucune politique n'a jusqu'à maintenant vraiment fonctionné. Et nous parlons de cette crise de la fertilité comme si c'était un mystère, mais ce n'est pas un mystère pour moi. Si nous créons une société où vous devenez pauvre, moins respecté, avec une carrière moins brillante et plus de difficultés à vivre dans une ville, pourquoi voulez-vous vous donner la peine de faire des enfants ?
It is not something we talk about publicly as a collective responsibility, but in a country like France or Denmark, where I'm.
Nous avons créé une économie qui est très hostile à la famille et où la richesse créée par la famille pour la société n'est pas valorisée. Le problème, c'est que dans un pays comme la France ou le Danemark, d'où je viens, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Notre ressource la plus importante, c'est notre capacité à travailler efficacement. Et nous ne tirerons jamais le meilleur parti de cette ressource si nous ne valorisons pas mieux tous ceux et surtout toutes celles qui contribuent à valoriser et à prendre soin de cette ressource.
Est-ce que, pour aller vers cette société, finalement, du care, dans laquelle on prendrait tous un peu plus soin des autres, quel va être le rôle de la technologie ? Est-ce que vous pensez que la technologie va nous aider à aller vers une société plus conviviale, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, elle va renforcer la dureté de la société que nous connaissons aujourd'hui ?
J'aimerais pouvoir voir l'avenir, mais je pense que ce que nous voyons en ce moment dans l'économie, c'est que la santé est l'un des travaux qui ne peuvent pas être automatisés par l'IA. Je pense que je serais plus effrayée si j'étais un avocat que si j'étais une infirmière.
Voilà, c'était la première partie de cette librairie de l'écho avec Carlos Moreno pour La Ville du Soin aux éditions de l'Observatoire et Emma Holton, Nous le Valons Bien aux éditions Robert Laffont. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho qui démarre, comme d'habitude, en fanfare avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur de la rubrique livre dans Alternative Économique, le magazine, mes critiques livres qu'on retrouve évidemment en ligne, bien sûr. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Le président de la Société d'économie politique et le critique attitré de la Société d'économie politique. Il était d'ailleurs critique bien avant d'être président, pour la société.
Et je ne sais pas, mais vitam aeternam, peut-être.
Et on démarre avec le choix de Christian Chavagneux, le livre de Lise Pelli, La machine Spotify chez Actes Sud. C'était un livre attendu, Christian Chavagneux.
Oui, c'est le décryptage du business model en fait de Spotify. Alors c'est rigolo parce qu'on commence par apprendre que les fondateurs ont commencé par offrir de la musique piratée en fait, au début, avant d'offrir de la musique pour laquelle ils avaient acheté les droits. Les majors, tout de suite, dès que ça marche, viennent dessus et disent non, là, il n'y a pas d'hésitation entre un modèle gratuit avec de la pub ou un modèle payant avec abonnement, parce qu'un modèle payant avec abonnement, il y a du cash qui rentre tout de suite. Mmh. Et donc, nous, on veut des paiements d'avance, on veut un minimum de paiement, et en plus, pour être sûr que tout va bien dans le sens qu'on veut, on rentre au capital au début. Spotify commence à bien fonctionner, et là, ce que le livre nous décrit, c'est comment fait Spotify pour gagner de l'argent. Alors, la première chose, c'est, pour ceux qui sont abonnés à Spotify, c'est les fameuses playlists. C'est des playlists d'humeur. Vous avez la playlist du matin pour se réveiller, la playlist du midi, la playlist de l'après-midi pour donner de la tonicité, la playlist du soir pour pouvoir s'endormir, la playlist quand on fait de la voiture, etc. Et on s'aperçoit que, alors ça, c'est pas, on vous fait pas découvrir de la musique. C'est pour des auditeurs, des auditrices complètement passifs à qui on met de la musique d'ambiance. On découvre, en tout cas, moi, je découvre dans le livre qu'il y a toute une industrie, des studios qui sont là pour produire ce que l'autrice appelle de manière assez drôle du streaming d'ascenseur. C'est plutôt bien vu. Donc, c'est de la musique d'ambiance qui coûte pas cher. Et évidemment, comme ça coûte pas cher, bah, Spotify gagne beaucoup d'argent avec ça. Et moi, je découvre. Alors, il y a 500 artistes. Et en fait, d'ailleurs, il y en a une vingtaine qui ont je sais pas combien de pseudos et qui sont dans des studios bien concentrés qui produisent ce streaming d'ascenseur. C'est assez rigolo. Si vous utilisez Spotify, vous savez que tous les jours, on vous propose votre daily mix. On vous propose les radars des sorties à la fin de l'année, le Wrapped, c'est-à-dire ce que vous avez écouté majoritairement pendant toute l'année. Alors là, l'autrice nous dit tout ça, c'est vous revendre avec un package différent ce que vous avez déjà écouté toute l'année, parce que notre ennemi, c'est le silence.
Ouais.
C'est le fait. Il faut que vous restiez, vous restiez, vous restiez, vous restiez, parce que si vous restez longtemps, c'est-à-dire vous êtes content et vous restez un abonné, vous faites gagner de l'argent pendant longtemps à Spotify. Tous les algorithmes qui surveillent tout ce qu'on écoute, en fait, on s'aperçoit, c'est une autre façon de gagner de l'argent Spotify, que nos données sont vendues à des courtiers en publicité, qui vont les utiliser pour cibler la pub, croiser ça avec d'autres données et cibler la pub qu'ils vont nous envoyer. Et puis le dernier point, c'est visiblement, alors il y a quelques grandes vedettes évidemment qui gagnent beaucoup d'argent sur le streaming musical, mais on s'aperçoit que c'est très très dur pour un artiste de gagner de l'argent en mettant sa production sur Spotify. Combien ils sont payés? Alors eux, ils voient ce qui arrive, mais c'est quoi les conditions? Le principe de base, il paraît super simple, c'est que vous n'êtes pas payé au nombre d'écoutes, vous êtes payé au pourcentage de l'ensemble des écoutes d'un mois. Mais derrière tout ça, ça dépend de votre abonnement, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, ça dépend de votre producteur, ça dépend de votre distributeur. Spotify dit, si vous voulez mettre en avant vos productions, si vous abandonnez 30% de vos droits d'auteur, je mets un peu plus en avant vos productions. Du coup, à la fin, le modèle vraiment de voilà, j'ai tant d'écoutes par mois, ça va me rapporter tant, c'est complètement opaque. On n'y comprend rien et personne n'y comprend rien. Par contre, ce qu'on comprend, nous, lecteurs, c'est que c'est très très dur de gagner de l'argent sur Spotify. Les musiciens se sont coalisés pour essayer d'avoir un peu plus d'argent parce que vraiment, ils ne gagnent pas grand-chose. À nous, auditeurs, auditrices, d'utiliser quand même ce service musical qui est quand même top niveau quand on sait bien l'utiliser.
Bon, Jean-Marc Daniel. Alors, vous utilisez Spotify, Jean-Marc Daniel?
J'utilise Spotify, oui, oui.
D'ailleurs. Enfin, vous, c'est très simple. À part Bob Dylan.
Exactement, oui.
La playlist, Bob Dylan, du matin au soir.
Exactement, voilà. C'est des chansons de Bob Dylan. 90% c'est Bob Dylan et 10% c'est des chansons de Bob Dylan chantées par d'autres chanteurs. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de travail pour repérer comment je fonctionnais. Et donc, effectivement, j'ai trouvé ces livres à la fois intéressants. Un peu difficile à lire, c'est très touffu.
C'est un peu touffu.
C'est bien traduit. C'est un livre qui à l'origine est un livre américain. C'est bien traduit. Vous savez que je suis très sensible à ça, mais quelquefois on se perd un peu. La construction est quelquefois assez compliquée. Moi, par rapport à ce qu'a dit Christian, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'abord le portrait des fondateurs. C'est une entreprise qui est suédoise et donc on en parle très peu parce que tout le monde parle des majors, des Américains et tout ça. Ce sont des Suédois. Le fondateur Daniel Ek, qui est un personnage dont j'ignorais l'existence. Je connais bien Bob Dylan, mais pas à Daniel Ek, et c'est grâce à Daniel Ek que j'ai accès maintenant à Bob Dylan. Donc c'est, il a commencé très très jeune, il était encore, donc il a commencé à pirater de la musique, et puis ensuite il a créé sa boîte. Il était encore au lycée, enfin il finissait ses études de lycée, il commençait la faculté, qu'il avait déjà créé sa boîte, et on disait sur le campus, il gagne déjà plus que les professeurs qui lui apportent des techniques informatiques. Et donc on découvre tout un monde, tout un mode de fonctionnement où effectivement les grands exclus, je trouve les grands perdants, c'est quand même les artistes. Christian l'a dit, la grande astuce, c'est qu'ils ont inventé des faux artistes. L'artiste, ils disent en moyenne, il gagne à peine $1 par diffusion. En fait, c'est extrêmement faible la rémunération. Et c'est tout ce mécanisme entre Spotify, le diffuseur, et puis l'artiste, toutes ces majors qui sont là en interface. Et la deuxième chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est effectivement l'idée que la publicité va résoudre, mais que finalement, on en revient à des paiements en monnaie réelle, c'est-à-dire on demande quand même aux gens qui utilisent Spotify de verser un abonnement, et que la publicité, ça reste quand même un grand mythe. Il y a quand même tout un passage où ils expliquent qu'ils ont conçu tout ça autour de la publicité, on leur explique non, ce qui est important, c'est le transfert des données, ça c'est clair, et puis c'est quand même de faire payer le consommateur à la fin.
Allez, on passe à votre choix. Jean-Marc Daniel, Sans Transition, le livre de Francis Albared, La naissance de l'argent, chez Dunod.
Non, oui, enfin, chez Albert Collin, chez Armand Collin, pardon.
C'est
la même maison, chez Armand Collin. Oui, et donc c'est un livre qui, en fait, qui est issu d'un travail de recherche qui avait été financé par l'Union européenne sur l'argent, qui s'appelle Silver. Et donc, c'est un livre où il y a quatre parties, mais il y a trois livres en réalité. Il y a un livre d'études un peu historique sur comment l'argent de métal est devenu monnaie, ouais. Et donc comment ça s'est articulé dans l'Antiquité autour notamment de la Grèce, d'Athènes, qui avait sur son territoire des mines assez célèbres, les mines du Laurion. Et puis ensuite il y a un chapitre, une partie qui est de la métallurgie. On comprend que l'argent, c'est un métal qui, dans la classification périodique des éléments, est associé à l'or et au cuivre. Et donc, c'est les métaux qui vont servir de monnaie, servir à conduire l'électricité, tout ça. Et puis après, il y a une dernière partie qui est une réflexion philosophico-économique sur qu'est-ce que la monnaie. Bon, ce qui j'ai trouvé le plus intéressant, d'abord, la partie sur la métallurgie est un peu difficile d'abord quand on n'est pas spécialiste. Mais on apprend énormément de choses, en particulier qu'il n'y a pas de l'argent partout, qu'il y a de l'argent à certains endroits de la planète qui correspondent à des mouvements géologiques, à des rencontres entre les plaques tectoniques à l'ère tertiaire. D'accord. Et donc il y en a dans le nord-est de la Méditerranée, il y en a en Amérique du Sud, dans les Andes, à des endroits où effectivement il y a de la vulcanologie assez puissante et des tremblements de terre très très fréquents. Et puis la partie sur l'Antiquité, sur la façon dont l'argent est passé du statut de métal au statut de monnaie. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que effectivement ils disent que un grand enjeu quand on fait circuler de la monnaie, c'est effectivement ce qu'on a à vendre. C'est-à-dire, pour avoir de l'argent, il faut avoir soit une mine, soit avoir quelque chose à vendre. Et que les Grecs, en réalité, ce qu'ils avaient le plus à vendre, c'était des mercenaires. En fait, la terre grecque est assez ingrate sur le plan agricole, et que les Grecs se sont affirmés et ont pris un rôle économique et politique grâce à une stratégie de mercenariat. Ils contrôlaient parfaitement la mer. C'était d'excellents marins et c'était d'excellents combattants. Et donc, c'est une idée qui est une idée que je trouvais assez... Alors, elle est répétée à plusieurs reprises, comment après les guerres médiques, ils se sont fait une sorte de publicité en disant que c'était les meilleurs et tout ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez original.
Christian Chavagneux, avez-vous aimé ce livre sur l'argent ?
Je suis partagé. En fait, d'un côté, on a un vrai spécialiste de l'argent métal au moment de l'Antiquité. Il nous explique le rôle qu'il a joué dans les relations entre les cités, entre les empires, dans la vie matérielle. Il n'oublie pas de nous dire que la circulation et la détention d'argent est bien liée aux conditions sociales et politiques. On a même un petit bout à la fin à dire, attention, cette exploitation de l'argent, ça a eu des impacts écologiques négatifs. Enfin, vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Forcément, on apprend des choses, ça c'est sûr. De l'autre côté, je vous avoue que quand je suis arrivé à la dernière page, j'étais content, là, je trouvais la lecture un petit peu fastidieuse. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est pas très incarné, on est sur des pages et des pages de mécanismes très généraux, pas facile à suivre. Il utilise souvent, plusieurs fois dans le livre, cette méthode scientifique que les économistes ont copiée, c'est-à-dire supposons que... Ah oui. Et là, on se dit, pour une histoire, supposons qu'il nous raconte l'histoire, alors ouais. sa version, une autre version, ce qu'il veut, mais au moins, la fin du bouquin sur je vais prendre des lois physiques, je vais essayer de les appliquer aux sociétés humaines, et bien évidemment, ça marche pas. Bon, c'est vraiment l'extrême de ça. Et Jean-Marc l'a dit, il essaye de nous faire comprendre les aspects économiques, politiques, sociaux de la monnaie, mais il est tellement loin des sciences humaines que ça paraît vraiment petit par rapport à toute la littérature qu'on ouais. a déjà, qui est hyper vaste sur tous ces sujets. Donc, forcément, on apprend des choses, on ressort moins bête à la lecture du livre, mais en même temps, la lecture n'est pas si facile.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
L'étude de la semaine, elle porte sur un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le paiement fractionné. Étude par United, dont nous accueillons la porte-parole Anne-Gaëlle Fauchon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing de United et donc on va partager avec vous les conclusions de cette étude menée en France, en Espagne, en Italie autour de ce phénomène. Quelle est d'abord l'étendue de la pratique? Est-ce que les Français finalement se laissent tenter? Est-ce que les Européens d'ailleurs se laissent tenter? Et à quel rythme par le paiement fractionné?
Alors tout à fait, c'est une très bonne question. Le constat de cette étude, donc c'est une étude qu'on mène nous depuis 2021. On a une session en 2023 et on a fait notre actualisation là sur l'année 2025. Et le constat, c'est que l'utilisation de ce paiement en plusieurs fois, ce paiement fractionné, se démocratise. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 40% des Français aujourd'hui qui utilisent au moins une fois par an le paiement en plusieurs fois. 44% des Espagnols et ça représente 46% des Italiens. Donc c'est un outil qui est extrêmement bien intégré dans la version dans un outil budgétaire pour les Français. Et c'est quand même 28% de ces Français qui l'utilisent même 2, 3 fois, 4 fois jusqu'à même une fois par mois. Donc c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui très démocratisé.
C'est quoi? C'est un outil de finalement pour mieux gérer son budget d'amortissement, un petit peu des chocs de trésorerie.
Il y a plusieurs éléments, plusieurs raisons qui sont aujourd'hui expliquées par les consommateurs quand on les interroge. Il y a des raisons qui sont assez standards, assez classiques, plutôt l'opportunité parce que c'est plus flexible, c'est plus pratique, parce que c'était gratuit. Et ça, on le retrouve de façon assez linéaire, que ce soit dans les trois pays, et aussi que ce soit sur les trois dernières éditions de cette étude. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un autre phénomène, c'est que c'est aussi aujourd'hui beaucoup plus disponible. Jusqu'alors, c'était assez exceptionnel, il n'y avait que certains retailers, e-commerçants qui le proposaient. Et nous, ce qu'on se constate, c'est qu'aujourd'hui, il est disponible. Il y a aujourd'hui la majorité des sites e-commerce ou des magasins qui vont vous proposer de payer en plusieurs fois dans leur expérience paiement.
Est-ce qu'il y a des types de dépenses qui résistent encore à la pratique du paiement fractionné? Ce qui est étonnant dans votre étude, c'est de voir finalement tous les nouveaux types de dépenses que les consommateurs aimeraient voir finalement financés par le paiement fractionné.
Alors c'est un bon point. On retrouve des secteurs qui sont assez habitués au financement de biens ou de services comme l'équipement de la maison, l'automobile, qui sont le consumer électronique, donc toute la partie biens électroniques, qui sont assez matures sur ces solutions. Et effectivement, dans notre nouvelle étude 2026, on a des nouveaux domaines pour lequel le consommateur français souhaiterait pouvoir payer en plusieurs fois. Et ça intègre complètement son quotidien, puisqu'on va parler de 60% des répondants qui citent avoir besoin de payer en plusieurs fois leur entretien automobile ou les réparations chez un garagiste. On a aussi des consommateurs qui souhaiteraient pouvoir financer ou payer en plusieurs fois leurs frais vétérinaires ou leurs frais de santé. Et on a un dernier exemple qui sont aussi du coup dans le cycle de la vie, puisque les frais d'obsèques sont extrêmement chers et qui aujourd'hui nécessitent aux consommateurs français d'avoir une flexibilité, une praticité pour pouvoir étaler le coût de ces frais.
Alors Anne-Gaëlle Fauchon, la législation va se durcir concernant le paiement fractionné. Est-ce que vous pensez que finalement cette cette pratique va résister au durcissement de la législation, ou bien est-ce que finalement c'est une pratique qui va être rendue beaucoup moins intéressante par les multiples vérifications qu'il va falloir faire, notamment autour de la solvabilité des clients qui voudront le paiement fractionné?
Alors c'est un point qui est intéressant, parce qu'effectivement on va avoir le 20 novembre 2026 la mise en application d'une directive européenne qui va apporter beaucoup plus d'informations et d'analyses de protection du consommateur sur ces pratiques de paiement plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux pratiques qui sont aujourd'hui mise en place auprès des clients et des consommateurs, deux solutions. Vous avez une solution qui est le 2, 3, 4 fois, qui était jusqu'alors non intégrée dans le champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation. Et c'est cette pratique-là qui, effectivement, va avoir le plus de chamboulement dans le cadre de la mise en application de la directive européenne en fin d'année. Donc, on va voir des choses qu'il va falloir qu'on regarde. Il y a deux éléments qu'il va falloir qu'on regarde. Déjà, nous, on a interrogé les consommateurs sur leur perception de cette réglementation. On a un premier élément qui, en fait, on a 40% des consommateurs qui voient une vision extrêmement, une image positive de cette réglementation.
Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Fauchon, donc directrice marketing de United, pour cette étude très intéressante autour du paiement fractionné.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on s'attarde cette semaine sur ce passionnant travail de l'INSEE autour de la redistribution. En 2023, le revenu moyen d'une famille française avant redistribution était de 44 300 euros. Sachant que après redistribution, ce revenu atteint 45 700 euros. Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics, finalement, prélèvent moins qu'ils ne redistribuent, procurant un supplément de revenu de 1 400 euros par famille au prix d'un endettement accru, bien évidemment. Et en 2023, 56% des personnes reçoivent donc plus qu'elles ne versent au titre de cette redistribution. Si on prend en compte les prélèvements dans leur ensemble et la façon dont ils sont redistribués, si on tient compte aussi de tous les services rendus par ce qu'on appelle les transferts non monétaires, à savoir l'éducation, la santé, le logement, l'action sociale, les dépenses collectives qui bénéficient à la société dans son ensemble, la police, la justice, etc., eh bien les 10% de Français les plus aisés ont un revenu 3,5 fois plus élevé que les 10% les plus modestes. 3,5 fois, alors qu'avant redistribution, cet écart est de 26 fois, donc pour les plus aisés, le revenu des plus modestes. Et pourtant, cette redistribution massive n'a pas empêché les inégalités d'augmenter ces dernières années en France, si l'on en croit l'augmentation du coefficient de Gini, publié par Eurostat. Le coefficient de Gini, c'est celui qui mesure justement cette évolution des inégalités.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et cette semaine, c'est celui de notre grand Manitou de la tech à BFM Business, Frédéric Simotel. Frédéric, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Frédéric, on parle de cette innovation galopante, de cette vélocité qu'il faut forcément avoir, notamment pour que nos grandes entreprises sachent rester compétitives. Et c'est bien le sujet du livre que vous avez choisi aujourd'hui, Innovation 2 ou Innovation au carré.
Exactement.
Plutôt. voilà, à la fois un livre d'analyse stratégique, mais aussi un guide opérationnel.
Oui, alors c'est Paul-François Fournier qui a écrit cet ouvrage. Alors je dis innovation au carré parce que je pense j'en ai pas encore parlé avec lui, mais je suis sûr que c'est ce qu'il a voulu dire. C'est de l'innovation à la fois dans les grandes entreprises et dans les startups. On va comprendre tout ça. On comprend tout ça parce que bon, Paul-François, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu. Il a été chez Wallandou, il était chez Orange, et aujourd'hui depuis déjà une dizaine d'années, 12-13 ans, numéro 2 de la BPI, et donc s'occupe de toutes ces startups, et lui, donc c'est de toute cette expérience qu'il tire ce livre. Il dit l'innovation aujourd'hui, bon, c'est plus une option stratégique pour les entreprises, mais c'est vraiment une condition de survie. Il insiste vraiment sur ce domaine-là, avec l'accélération des ruptures, avec l'intelligence artificielle, bientôt le quantique. On voit qu'il va falloir, si on veut être fort, on le voit dans le cloud, on le voit dans l'IA, on le voit dans plein de domaines, il faut être surtout innovant, parce que voilà, les milliards, ouais, on les a pas comme les autres. Et donc à cette pression technologique, s'ajoute tout ce qui concerne le contexte géopolitique, hein, la souveraineté économique. Et donc, l'urgence est donc double. Il faut à la fois rester compétitif et préserver la France dans la hiérarchie mondiale. Et le cœur de sa démonstration repose sur une critique des pratiques actuelles des grands groupes, notamment dans l'innovation. Alors, non pas qu'elles n'innovent pas, hein, bien entendu. Elles innovent mal. Elles ont des angles morts un peu, et notamment dans leur relation avec les startups. Et c'est d'ailleurs pour ça, en tant que patron de BPI, il est au carrefour de tout ça et il voit ce qui ne fonctionne pas. Et il dit que pour ces jeunes entreprises représentent déjà environ 20% des dépenses de R&D en France. Et pourtant, les grands groupes continuent de leur consacrer une part marginale. Alors, on n'est pas au même rythme. Non, ils sont sur une innovation qui nous intéresse moins. Donc, il y a un peu tout ça. Et le livre dit, ça y est, les gars, il faut changer d'échelle. Hein, porter environ à 20% vos budgets de R&D vers ces startups. Certains y arrivent. Hein, dans la pharmacie, on y arrive. Et il faut vraiment jouer cette complémentarité efficace. Et pour que les grands groupes, d'un côté, les startups innovent, etc. Mais, et les grands groupes doivent assurer l'industrialisation, le passage à l'échelle.
Mais pourquoi c'est si compliqué? C'est-à-dire que d'habitude, c'est quoi? C'est les grands groupes qui ont l'habitude d'internaliser la R&D chez eux. Est-ce qu'elles ont du mal à faire confiance, finalement, à des entreprises qui sont toutes jeunes, qui n'ont pas de track record, qui sont peut-être trop disruptives et avec lesquelles on a peur de s'engager?
C'est un peu ça. Déjà, il y a un problème de rythme. Souvent, on le dit, les entreprises, vont un peu moins vite que les startups. Ensuite, il y a un problème d'identifier aussi la bonne personne dans l'entreprise qui va suivre un peu cette startup. Et puis, vous savez, il y a souvent ce souci aussi. Ben, la startup, elle est sur son couloir de nage, elle doit avancer. Et la grande entreprise, elle voit la piscine dans son ensemble. Donc, elle se dit, oui, ça, c'est un petit couloir de nage, et elle y va pas assez. Et justement, l'auteur, et puis, il y a la part d'incertitude et d'échec. Une start-up, ça peut avoir un échec. Ouais. Et là, l'entreprise se dit, oh là, on va pas miser sur l'entreprise dont t'es pas su la
comment priorité. Comment on réconcilie?
C'est aux entreprises de se mettre un peu dans l'ambiance capital risque. Alors, certaines le font par des fonds qu'elles mettent en place, mais ça se traduit pas au niveau des départements R&D et on est vraiment dans les limites organisationnelles des grandes entreprises. Les fonctions liées à l'innovation, à la R&D, aux fusions, acquisitions, aux achats sont trop souvent fragmentées. On a une division qui s'occupe des fusions, acquisitions, une autre de la R&D. Il faudrait un peu avoir une vision beaucoup plus unifiée de tout ça. Et donc cet ouvrage, donc s'appelle Innovation, il est aux éditions Anne Carrière. Je vous le conseille, hein, ça se lit assez vite. Et puis c'est un guide un peu opérationnel. Ça dépasse juste le simple diagnostic. Ça donne quelques pistes. Et je pense que tous les patrons de l'innovation dans les grands groupes devraient s'en inspirer. Il y a quelques bonnes idées à prendre dans ce livre de Paul-François Fournier.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Alors j'ai choisi un livre qui est un peu un événement du moment, qui est le dernier livre de Bruno Le Maire, publié donc chez Gallimard,
bien sûr,
à la NRF chez Gallimard. Donc ça s'appelle Le temps d'une décision et en dessous il y a marqué récit. Alors effectivement c'est un récit où il y a grosso modo trois parties. Il y a une partie où il y a des portraits des gens qu'il a croisés. Alors c'est quasiment du Saint-Simon. je le flatte pas parce que c'est un style. Il y a un style assez grand siècle. Enfin, il a une plume qui est assez agréable et assez typée. Ensuite, il y a une partie qui est plus sur son passage au ministère des Finances. Et puis ensuite, il y a une partie qu'on pourrait appeler...
Je me présente.
Voilà, je me présente. Vous savez, comme c'est un homme cultivé, il connaît certainement l'apologie de Socrate, de Platon. Là, c'est un peu l'apologie de Bruno, par le maire. C'est-à-dire, vous savez, je sais que je ne sais rien, je suis modeste et tout ça, mais quand même, je peux apporter quelque chose à ce pays. Et alors, il y a des personnages qui sortent pas très grandis de tout ça. Je laisse le lecteur le soin de vérifier qui n'est pas grandi dans la plume de Bruno Le Maire.
Christian Chavagneux.
Moi, c'est une étude assez épaisse de Anna Carolina Cordilla, qui est une chercheuse. Quand on parle recette de la protection sociale, on dit alors est-ce que faut plus de cotisations sociales, plus d'impôts, plus de l'un, moins de l'autre. Et là, elle nous dit mais attendez, il y a une troisième ressource qui est l'endettement. En fait, elle nous retrace tout l'historique de la progression de l'endettement de l'UNEDIC, de la CADES, des hôpitaux, et elle nous montre comment c'est arrivé, comment ça s'est développé, combien ça coûte, quelles conséquences. C'est un working paper, un document de travail en français qui est assez épais, vraiment très bien fait, une étude précise.
Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est formidable qu'on se soit endetté pour financer la protection sociale?
Non, il y a un gros coût financier en fait. Et elle essaye d'évaluer combien coûte financièrement la dette. Il faudrait peut-être mieux avoir d'autres ressources plutôt que de passer par la dette. Mais c'est une grosse étude, c'est presque un petit livre, très précis, très bien argumenté.
Et moi, j'ai choisi de vous parler de My Smart Book. Est-ce que vous avez entendu parler de My Smart Book ?
Non.
C'est une nouvelle appli qui est sortie le 17 avril et qui permet de dialoguer avec les livres que vous achetez via une intelligence artificielle. C'est l'œuvre d'une start-up française avec quand même cette promesse étonnante. Donc, un catalogue de 450 000 livres que vous pouvez acheter. Et à partir de là, vous avez une IA basée sur Mistral qui vous permet d'échanger avec le livre. Exemple, vous lisez, vous mettez le livre de côté 4 semaines, vous demandez à l'IA, est-ce que vous pouvez moi faire un résumé, vous avez envie d'en savoir plus sur un personnage, vous avez envie d'en savoir plus sur un chapitre, il y a quelque chose que vous comprenez pas très bien, vous pouvez dialoguer avec l'IA. Imaginez, pour les jeunes qui préparent par exemple en première le bac de français, voilà une petite aide utile. C'est assez passionnant. Vous voulez par exemple préparer vos vacances, paf, un guide de voyage. Et vous lui demandez d'organiser votre voyage. J'ai trouvé ça très excitant. Ça s'appelle My Smart Book. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.